rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes lundi 28 octobre. C'est le nouveau rendez-vous pour une soirée en deux temps, deux vitesses. Vous pouvez nous podcaster dès 18h avant même le passage antenne. 22h minuit, je crois que j'ai trouvé la formule. Un NRV en deux parties. On ouvre avec l'actualité et la musique live. Et en deuxième heure, ce sont les archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, c'est chamanisme tous en transe. Oui, je sais, c'était votre titre, Christophe Boursier.
Oui,
j'ai
pas
trouvé mieux.
Oui,
mais justement, j'ai pas trouvé mieux.
Tant mieux. Bah, tout c'est bien.
Vous en avez d'autres?
Ah, oui. Vous voulez d'autres titres?
Allez-y.
Bah, éventuellement, oui, bien sûr. Donc, chamanisme, la voix de la transe, pour l'interrogation. Ça, c'était mes titres un peu sérieux. Sinon, elle tape sur des bambous et ses numéros trans, pour l'interrogation.
C'était pas mal.
Que t'es pas mauvais.
J'aurais
moins bon, moins bon. Ne dites pas à ma mère que je suis chaman, elle me croit pianiste à France Inter. Moins bon.
Hein,
moins
oui. Bon, voilà. Comment devient-on chaman? Quels sont leurs pouvoirs? De qui sont-ils les intermédiaires? Qu'en est-il sur le plan scientifique? Chamanisme, on y croit ce soir. Est-ce qu'on va entrer en transe, Marion Guilbeault, avec le live?
Il y a des chances, hein. C'est un espèce de chaman du sentiment amoureux. Il s'appelle Le Noiseur, il sera en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. France Inter plus de Mur de Berlin. Oui, encore deuxième semaine avec les rendez-vous avec X, l'émission culte de Patrick Penaud. Ce soir, des espions séducteurs, les Roméo de la Stasi. Allez, le NRV. C'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de vous lancer dans un éditorial ébouriffant, Christophe Boursier, je vous présente nos invités. Fabienne Berthaud, vous êtes cinéaste et vous signez Un monde plus grand. Ça sort en salle mercredi prochain. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Corinne Sombrin. Le film raconte son histoire. Vous êtes chamane, Corinne Sombrin, entre autres. Et auteur du livre Mon initiation chez les chamans, c'est disponible chez Pocket. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vincent Ravalec, vous êtes écrivain, cinéaste, on le sait, influencé par le chamanisme. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Charles Stepanov, ethnologue, vous êtes l'auteur de Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination. C'est aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et enfin, Yann Kounen, cinéaste. Alors vous, on vous s'est plus qu'intéressé sur le sujet. Plusieurs documentaires, je pense notamment à D'autres mondes et à Ayahuasca, Cosmic Journée. Bonsoir.
Bonsoir.
À vous. Christophe, c'est parti.
C'est bien dit, hein, c'est bien
vu. On y va.
Oui, Laurent, je souhaiterais simplement comprendre pourquoi vos oreilles ont-elles poussé jusqu'au plafond et pourquoi sont-elles bleu turquoise? Alors, méfiez-vous du micro, je crois qu'il essaie de vous mordre. De toute façon, le studio 621 est apparemment devenu un tube digestif. Non, il est en velours, oui, il me dissout dans un nuage nauséabond et néanmoins coloré. Oui, Laurent, j'ai voulu brièvement vous faire partager une expérience chamanique. Alors, ai-je réussi ou campais-je dans une certaine outrance, hein, plutôt qu'une transe? C'est vrai que le chamanisme est un phénomène mystérieux. Il s'agit de très anciennes pratiques spirituelles que l'on dit originaires de Sibérie. Ces pratiques reposent sur une idée forte. Laurent, si j'entre en transe dans certaines conditions, je peux accéder à une autre réalité, plus intense que celle de tous les jours. Ainsi, Laurent, je les vois, vos tentacules, alors que d'habitude, je n'y fais pas attention. Certains parlent d'hallucination. Les chamans disent que nenni, ça c'est rare que les chamans disent que nenni, mais ça peut arriver. C'est un monde plus grand, et là je me réfère bien sûr à Fabienne Berthaud, que nous percevons. Le chamanisme ouvre, selon les mots d'Aldous Huxley, les portes de la perception. Mais est-ce la vérité, Laurent, ou tout ceci relève-t-il du charlatanisme et de la maladie mentale? Fabienne Berthaud, vous êtes un esprit rationnel, enfin je vous connais depuis longtemps, on a été mariés et femmes dans un téléfilm. Comment avez-vous...
Et en plus c'est vrai.
En plus oui. C'est vrai. Comment avez-vous atterri en Mongolie pour réaliser ce film quand même assez surprenant et totalement sidérant même, Un monde plus grand?
Mais c'est juste qu'on m'a proposé le récit de Corinne Sombrin, donc, qui s'appelle Mon initiation chez les chamans, et je dois dire que je connaissais pas grand chose à tout ça avant de l'ouvrir, ce livre, et je me suis dit, mais quel sujet j'ai entre les mains, mais même en tant que cinéaste, parce que ça pouvait le sujet déjà de l'histoire de cette femme est absolument extraordinaire. Mais c'est surtout que ça m'emmenait dans une vision géographique et intérieure du monde qui m'a, je pense, transformée réellement.
Alors ce film, Un monde plus grand, bien, c'est votre histoire, Corinne Sombrin, votre parcours initiatique, votre initiation au chamanisme chez les Tsatan, c'est ça, les Tsatan de Mongolie. L'histoire commence par un voyage donc en Mongolie pour effectuer des prises de son. On comprend que l'héroïne traverse une période difficile. Elle est veuve, on va dire, depuis peu. Ce voyage va l'ouvrir à un monde plus grand, bande-annonce.
Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici.
Les chamans peuvent communiquer avec les morts.
Oui.
Natrunchin. Otron Mumbe.
Il pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques.
Tu dois maintenant apprendre à t'en servir.
Je sais pas ce que vous me racontez. Fais flipper cette bonne femme.
Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non?
T'as pas le choix. C'est ton destin.
Tu crois pas que tu devrais quand même aller consulter par un médecin?
Écoutez, si à chaque fois que vous entendez du tambour, vous vous prenez pour un loup, il y a quand même un petit problème, vous croyez pas?
En effet, il y a un petit problème. Corinne Sembrin, c'est Cécile de France qui joue votre rôle dans le film. Vous êtes chamane, mais vous aviez déjà été initiée, j'ai pu lire, au chamanisme, avant même ce voyage en Mongolie par un chaman péruvien, c'est ça? Quelle forme d'initiation avait eu lieu à ce moment-là, avant même donc l'histoire de ce film?
Alors, j'étais allée rencontrer un chaman péruvien pour faire un reportage pour la BBC. Donc, évidemment, j'avais pris de l'ayahuasca, j'avais pris... Voilà. Donc, l'accès à la transe, pour moi, était évident, puisqu'on a une plante psychoactive qui provoque l'état de transe. Voilà, mais c'était pas une véritable initiation, c'était... voilà, je suis restée un mois et demi dans la jungle avec lui.
Alors, comment vous expliquez que, quand vous étiez dans la jungle, rien ne s'est véritablement passé, que la révélation chamanique a eu lieu en Mongolie?
Tout s'est passé dans la jungle, c'est-à-dire que j'ai vécu des trans, mais je pensais que c'était dû à la plante, à l'ayahuasca. À l'ayahuasca. Ce à quoi j'étais pas préparée, c'était de vivre une transe avec le son d'un tambour en Mongolie.
Pour la simple... Oui, Fabienne Berthaud.
Oui, parce que ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que il n'y a pas d'élément extérieur qui entre dans notre corps pour que on change de dimension, en fait.
Pas de drogue, pas de champignons.
Voilà. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça voudrait dire qu'on peut tous vivre ça sans élément extérieur, en fait.
Il n'y a pas une mise en condition nécessaire, parce que dans le film, c'est simplement, c'est un tambour,
oui.
Qui provoque l'état de transe de Cécile de France, qui le joue magnifiquement bien, mais on se dit, franchement, moi j'écoute des disques techno assez régulièrement, sans pour autant entrer en transe. Malheureusement pour moi.
Peut-être que si.
Charles Sepanoff, le fait d'avoir recours à des éléments extérieurs comme la drogue, les champignons hallucinogènes, c'est dans certaines régions, c'est pas partout en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça. Finalement, c'est dans les régions où le chamanisme est le plus accessible qu'on va utiliser ce genre d'expédient parce que chacun peut les ingérer et en subir les effets psychotropes. Alors que dans des régions plus hiérarchiques, où le rôle du chaman il est réservé à un spécialiste, on a une conception en termes de talent inné. Et là, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Ça se révèle dès la naissance, souvent. Et puis, ça se transmet de génération en génération par des lignages de chamans.
Et quelle est la géographie, donc, pour pouvoir connaître là où il y a des éléments psychotropes et là où il n'y en a pas?
La manite tumouche, par exemple, c'est utilisé en Sibérie orientale, dans l'extrême-orient sibérien, chez les Tchouks, les Koryaks. Ensuite, en Amérique du Nord, il n'y a plus rien du tout, alors que les traditions chamaniques sont présentes. Il n'y a pas d'usage de psychotropes. Ça réapparaît en Amérique centrale avec les champignons psilocybes. Et ensuite, c'est très répandu, c'est bien connu. L'ayahuasca, par exemple,
en Amazonie. Ce qui est curieux dans ce que vous racontez, c'est qu'on voit bien que le chamanisme est un phénomène mondial. Puisqu'il y a même des chamans en Corse, par exemple. C'est un phénomène qui dépasse les traditions. C'est ça qui est très curieux, Corinne Sombrin, quand même.
Toutes les populations ont utilisé une induction pour accéder à la transe parce que tous veulent accéder à ce qu'ils appellent le monde des esprits. Et ce monde des esprits va leur permettre d'avoir des informations qui vont être utiles à la communauté, d'abord. Et donc, ce monde des esprits, dans la plupart des populations, est le garant du maintien de l'harmonie. Donc, si on veut que la communauté soit harmonieuse et qu'elle vive en harmonie avec son environnement, il va falloir aller voir plus grand que ce qu'on perçoit d'habitude. Et donc, on va demander au monde des esprits s'il a des solutions pour arriver à vivre en harmonie avec son environnement.
C'est vrai que moi, le film m'a fait comprendre que j'avais une sorte de cliché. Je pensais que c'était rentrer en contact avec les esprits des morts, c'est-à-dire réconcilier les vivants et les morts. Mais en fait, dans le film, c'est plutôt éloigner le monde des vivants de celui du monde des morts.
Tout à fait. Alors moi, sur mon terrain, chez les Touva, qui sont apparentés au Tsatan, où le film a été filmé, aujourd'hui, après la chute du régime soviétique, le chamanisme a réapparu. Et le rituel principal pour les gens, ce qui fait que les chamans sont indispensables pour chaque famille, c'est les rituels funéraires, dans lesquels le chaman il va convoquer l'âme du défunt 7 jours ou 47 jours après la mort. Il lui parle, il lui donne à manger, des raviolis, il lui donne des cigarettes dans le feu, de la vodka, selon ses goûts. Et puis, il va le convaincre qu'il est mort déjà, parce que les défunts, ils se rendent pas compte qu'ils sont morts et ils veulent rester copains avec les vivants et essayer de les emmener avec eux, ce qui est très dangereux pour les vivants, et le convaincre qu'il doit partir vers l'autre monde.
Alors vous dites que les rituels chamaniques ont pour but de créer ou de rétablir des liens avec des entités non humaines aussi, c'est-à-dire arbres, montagnes, animaux. Ça participe aussi de ça, c'est l'idée d'entrer en contact avec ce studio par exemple.
Tout à fait, c'est très important, même en ville par exemple, il y a des chamans qui travaillent en ville avec des gens qui sont sédentarisés, eh bien ils vont rétablir le lien entre chaque personne, chaque famille et une région d'origine par un arbre qui va être consacré sur lequel les gens vont nouer des rubans. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça, tout à fait simples, hein, qui n'impliquent pas de transe, qui impliquent de la divination, des chants, et qui sont dans l'idée de rétablir les liens de chacun avec le milieu vivant.
Yann Kounen et Vincent Ravalec, comment vous avez été initiés tous les deux? Par quel biais? Vincent Ravalec.
Écoutez, moi, j'avais une grande motivation qui était d'ordre non pas ethnologique, mais vraiment existentiel, en fait. Moi, je suis né dans les années 60, et donc j'étais baigné par... À l'époque, il y avait un livre qui s'appelait Le Matin des Magiciens, il y avait une revue qui s'appelait Planète, il y avait
Louis
Tintin...
Oui,
il y avait, bon... Et en fait, il s'est passé qu'un jour, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup d'aller sur les traces de cette espèce d'imaginaire adolescent que j'avais. J'y suis allé, et je dois dire que j'ai fait tout un périple, j'ai fait une espèce de tour du monde du chamanisme. Je suis allé au Pérou, mais je suis allé dans d'autres endroits.
En Mongolie aussi?
Non, je suis pas allé en Mongolie. Et les initiations que j'ai réussi à faire, en fait, m'ont vraiment ouvert alors un champ de questionnement vraiment abyssal, quoi. Je pense que on n'aurait pas trop de plusieurs semaines pour en parler.
Et vous, Yann Kounen?
Moi, je pense qu'au départ, c'était un peu ce même questionnement. Comment, d'ailleurs, des substances qui sont considérées comme des choses toxiques ou sont des objets, sont des médiums pour soigner les gens dans des cultures depuis des milliers d'années, etc. Donc, à partir de là, il y a 20 ans, je me suis dit, il y a quelque chose sur lequel je voudrais enquêter et donc faire l'expérience. C'est comme ça que ça a commencé.
Ce qui est frappant dans le film, là, c'est que le fait que c'est une initiation strictement féminine. c'est-à-dire que c'est une femme, Corinne Sombrin, ou Cécile de France qui l'incarne, qui va rencontrer une chamane, et j'ignorais qu'il y ait des filières comme ça, de genre, en quelque sorte.
Mais c'est la vérité dans le récit, en fait. C'est que celle qui a initié Corinne Sombrin, qui est là, c'était vraiment une femme chamane. Après, celui qui a déclenché, qui a mis qui a donné cette information d'être chamane, c'est un homme. C'était un chaman.
Corinne Sombrin. Pardon.
Vous confirmez, oui. Donc
oui, je confirme. C'était un homme d'abord, et lui, dans sa tradition, il disait que le chaman découvreur du don pouvait pas être celui qui transmettait la formation et donc il a fallu trouver un autre chaman. Voilà, et c'est tombé sur cette chamane.
Vous connaissez les Tsahatan, vous?
Oui, alors moi j'ai travaillé chez les Tojou, qui sont le groupe d'origine des Tsahatan, qui ont quitté la Russie à la suite de la collectivisation. Donc début 20e, et dans les années 50, un groupe s'est séparé, ils sont retrouvés en Mongolie, et là ils ont été mongolisés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur langue et beaucoup de leurs traditions chamaniques qui sont très mongoles actuellement.
Le fait d'être musicienne, je me suis demandé, Corinne Sombrin, est-ce que ça vous a aidé dans le chamanisme? J'ai pu lire que vous aviez pu, en tant que musicienne, repérer des moments particuliers où le fait de jouer du tambour pouvait faire accéder à la transe.
Alors, ça m'a aidé à identifier dans les séquences de tambour des séquences qui étaient particulièrement efficaces sur mon cerveau, en tout cas. Voilà. Donc, ces séquences que j'ai isolées, que j'ai données à étudier à des chercheurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui provoquait la transe là-dedans et en quoi c'était efficace sur le cerveau. Voilà. Donc, ça m'a servi à ça. Mais le fait d'accéder à la transe n'est pas dû au fait que je sois musicienne.
Ça, je peux imaginer. Voilà. Yann Kounen, vous êtes toujours passé par des psychotropes ou par des produits illicite ou le tambour ou d'autres moyens sans ingérence de produits étaient possibles pour vous?
Bien sûr. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 20 ans, j'ai fait une des premières des trans, j'étais là et donc j'ai vu l'énergie et la médecine que de Corinne au tout début. Quoi. Ouais, voilà.
Parce qu'en venant de Mongolie, la chamane m'avait donné des exercices, des devoirs à faire à la maison, et donc je devais jouer du tambour, m'entraîner, mais comme je ne pouvais pas m'entraîner dans un appartement parisien, j'ai une copine qui travaille à la cartoucherie, tout simplement, et qui a proposé
le lieu de théâtre à Vincennes, voilà, Darian Mnouchkine.
Voilà, c'est ça. Et donc, elle a proposé que je m'entraîne là-bas, donc j'ai invité les copains à venir assister. Voilà, donc Yann en faisait partie, et ça fait
18 ans.
Oui, absolument. Bon, moi j'étais aussi un peu imbibé, hein. C'est un peu...
D'accord.
Voilà. Mais quand je dis ça, il suffit de prendre une fois ou plusieurs fois les plantes pour que vous soyez débouché à percevoir aussi les choses différemment. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui est formidable, hein, pour parler de ça, je veux juste préciser substances, drogues, plantes. Non, il faut regarder les choses différemment. Il y a des techniques pour aller dans des états modifiés de conscience. Et puis, la nature a créé des objets qui nous permettent d'entrer en relation avec elle et discuter en vis-à-vis. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que nous, culturellement, on parle on mange comme des légumes, on mange des fruits, on mange ce que la nature nous propose. Et puis, pour certaines choses, la nature nous propose, elle-même, d'entrer en relation avec quelque chose. Donc c'est culturel, il faut le comprendre comme ça, il faut pas le regarder que sous forme de drogue. Alors oui, par contre, ça provoque des états forts. Mais pour répondre finalement à votre question, aujourd'hui, effectivement, moi les plantes sont très présentes dans ma vie depuis 20 ans, mais je dirais qu'il y a des tas de types de yoga, il y a des tas de, par exemple même la Pandora Star qui est une lampe qui propose des fréquences pour mettre en synchronisation votre ou déclencher des états modifiés de conscience et pour que vous réguliez vos énergies. Il y a de la technique, il y a les sons binauraux, il y a de la musique, il y a le tambour, il y a plein de façons d'explorer qui existent avec ou non des choses à ingérer. Voilà.
On va continuer d'explorer ce monde plus grand dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose d'écouter quelqu'un qui a un nouveau prénom. En tout cas, c'est une nouvelle voix et bientôt un nouveau poids lourd de la chanson française. Hervé a le cœur poids plume pour l'instant.
Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me soutiens plus. Ah ouais, ces maudites paroles. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture. Je fais le point sur les soudures. Je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, 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 en ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à l'pou qui va plus. J'ai le cœur poids plume. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes. J'ai le cœur pour plume, le cœur pour plume, le cœur pour plume, le cœur pour plume. Je
Cœur, Poids, Plume, signé Hervé, un extrait de son premier album Mélancolie FC, programmation Alain Bachung, es-tu là, de Jean-Baptiste Audibert.
Les premiers temps, je me roulais par terre flottant dans mon corps, écran vivant de ses visions. Elle me transperçait de part en part.
Le nouveau rendez-vous.
Petit à petit, j'ai compris. Il fallait se concentrer pour se laisser traverser par cette forme inconnue de langage sans mots. La réalité de ce monde apparaît aussi concrète que la réalité matérielle. Plus forte encore, car je ressentais dans mon corps ce que je voyais.
Laurent Goumard.
Kesten Betsa et la plante m'amenaient dans un autre monde. Elle était le véhicule, il était le pilote.
Sur France Inter.
Très belle voix comme toujours, Yann Kounen. Très belle diction dans ce film. Vous nous resituez le passage ?
Ouais, je me souviens plus, je l'ai fait il y a longtemps ce film. Oui, c'est la tentative. En fait, le film entier est ce pont à faire quand vous vivez une expérience très forte et que vous êtes cinéaste, ben, ou écrivain, ou voilà, c'est de la partager dans votre tribu. Donc,
le film, c'était d'autres mondes, hein.
Absolument, très beau documentaire, ouais. qui suivait le film Blueberry, l'expérience secrète, qui était pour moi véritablement un film qui a complètement marqué la vision que je pouvais avoir du chamanisme. Les 30 dernières minutes sont assez étonnante. Mais pourquoi? Parce qu'elles s'inscrivent dans tout un imaginaire rock'n'roll qu'on a toujours connu. Je comprends Vincent Ravalec quand il dit « j'étais dans les années 60 ». Les concerts de Grateful Dead étaient là pour mettre en transe. Le mouvement psychédélique, les Pink Floyd étaient là pour mettre en transe. Et d'ailleurs, il y a une ambiguïté là-dessus. On en parlait pendant ce disque très bachungien tout à l'heure. C'est le fait que transe, pour moi, c'est quand je vois... Quand un chanteur de rock entre en transe dans un concert, ça dure pas. C'est une espèce de moment comme ça, un peu comme une sorte d'orgasmique, on pourrait dire, où il atteint des sommets d'extase, mais en fait ça dure qu'un petit instant, alors que vous c'est autre chose. Vous c'est plutôt une sorte d'état modifié qui peut durer, dans lequel on voit quelque chose. C'est ça, Corinne Sombrin, vous voyez quelque chose?
On voit, on ressent, on fait des gestes,
c'est
on
très,
fait des sons,
c'est très visuel ce que vous dites. Regardez par exemple Cécile de France, quand elle parle de transe, alors je crois que c'est dans le dossier de presse, elle dit « Je me suis mise à avoir des tremblements involontaires, je suis entrée dans le monde noir où j'ai vu apparaître une porte. Oui. Au moment de franchir le seuil, j'ai eu un mouvement de recul. » Là, on est dans quelque chose de très...
C'est un thriller spirituel.
C'est un thriller spirituel.
C'est qu'on doit passer cette porte quand on accède à cette dimension du monde noir.
Tous par la porte?
Non. Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas passé la porte, par exemple. Donc, je peux pas le dire.
Corinne Sombrin.
Non, on passe pas tous la porte. Et chaque transe est vraiment propre à chacun. Il y a des grands types de transe, mais dans certaines, il y a énormément de mouvements, pas de vision du tout. Dans certaines, on fait des sons, on fait des chants, Donc, c'est vraiment propre à chacun.
Et qu'est-ce que vous pensez par exemple, de ceux, des catholiques qui disent, vous êtes des possédés, Vincent Ravalec. Vous qui êtes un possédé.
Alors moi qui suis un possédé, qu'est-ce que je peux vous dire d'intelligent là-dessus? Je sais pas trop. Je pense que tout ça, c'est des sujets très complexes. Ça dépend de votre propre système culturel, ça dépend comment vous vous appropriez les choses, ça dépend comment vous êtes capable de gérer l'énergie. Je crois qu'il y a réellement des phénomènes de possession, c'est-à-dire où il y a des entités extérieures qui viennent prendre possession de vous, comme il y a aussi des choses où c'est juste des espèces de délire psychique. Enfin, je pense qu'il y a un peu de tout. Et je pense que c'est un sujet vraiment... je pense que le terme complexe est vraiment même impropre. On peut le catégoriser en disant il se passe ci ou il se passe ça ou telle tradition fait ci. Moi personnellement, j'ai eu des expériences très très différentes. On parlait des états de conscience modifiés. Pour moi, il n'y a pas une transe. Enfin, je veux dire, vous prenez par exemple une plante, vous allez dans un certain regard sur le monde, vous n'en prenez pas, mais vous passez par une autre technique.
Vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous avez vu ou entendu?
Ouf.
Pour être concret.
Alors, pour être concret, si on prend par exemple des analogies avec la technologie moderne, il y a des moments où vous pouvez être dans une espèce de réalité virtuelle, c'est-à-dire dans un monde qui est vraiment, par exemple, avec l'ayahuasca, c'est vrai que c'est tellement puissant que vous êtes à un moment dans un monde qui se substitue au monde réel et vous avez vraiment l'impression que ce monde est réel parce qu'il l'est réellement. Et il y a d'autres moments où vous êtes plus en réalité augmentée, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une espèce de vision qui se superpose à la réalité. En tout cas, pour ma part, ça a été une espèce de gymnastique d'arriver à gérer ça. Mais c'est vrai que vous avez, mais de la même manière que quand vous avez un regard poétique sur le monde, vous pouvez aussi, tout simplement, décoder le monde différemment.
Mais pour en faire quoi? Parce que dans le cas de Corinne Sombrin, on voit bien, on parlera tout à l'heure de la dimension scientifique, les neurosciences et tout ça. Mais par exemple, pour vous, Vincent Ravalec, le chamanisme vous sert à quoi, à produire quoi?
Alors, avant de répondre à votre question, si vous voulez, pour moi, le chamanisme, il s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue personnel. Mais disons que ça m'a fait comprendre, moi qui suis né à Paris, j'ai toujours été urbain, j'ai d'un seul coup eu un accès à la nature, et plus qu'à la nature, en fait, à une vision systémique du monde, qui était pour moi quelque chose que je n'avais pas, c'était pas implicite, si vous voulez, qu'on soit tellement imbriqué, si vous voulez. D'ailleurs, je me suis permis de venir avec un livre, je sais pas si je vais retrouver la page, qui est un livre formidable, qui s'appelle L'univers à portée de la main, qui est un livre de vulgarisation scientifique. Et voilà ce qu'il dit. Et tandis que vous êtes sur le point de remonter toute l'histoire de l'univers jusqu'à la naissance de l'espace et du temps, vous interrogez. Se pourrait-il que tous ces chamans et autres illuminés qui, au gré des siècles, ont crié, pleuré, chanté, écrit, peint et dansé, que un est tout, et tout est un, aient vu juste? Eh bien, en un sens, peut-être oui, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne savaient pas pourquoi. En fait, moi, mon expérience chamanique, ça a été vraiment d'avoir une vision plus ample du monde, et après de trouver des éléments dans le monde moderne, des manières de l'expliquer, et notamment dans la science.
Et vous, Yann Gounen?
Alors, moi, j'y suis allé d'abord par curiosité et ce que j'ai pris, d'abord, j'ai pris une grosse claque, c'est-à-dire qu'en fait, on doit changer de paradigme. On doit apprendre autrement à regarder le monde. Parce qu'en fait, l'expérience est tellement forte que vous devez déconstruire les systèmes de croyances que votre société vous a appris, qui sont rentrés en vous. Vous voyez le monde d'une certaine façon. Donc moi, par exemple, les petits esprits de la nature, c'était bien gentil, mais ça, c'était des petites foutaises, mais sympathiques. C'était et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient un savoir-faire. Et c'était juste des archétypes ou des choses de ce type. Et puis, à un moment, vous êtes confronté à une réalité qui n'est pas celle que votre culture vous apprend. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait d'autres mondes, hein, pour répondre. C'est, moi, je suis allé voir les scientifiques qui avaient la même histoire et qui ont, eux, en tant que scientifiques, ont dédié leur vie pour essayer de comprendre la puissance des expériences vécues et comment les intégrer. Parce que les deux systèmes peuvent vivre ensemble. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Donc, dans un premier temps, il y avait une sorte de curiosité métaphysique sur la nature de la réalité qui m'a amené là. À partir de là, je me suis retrouvé comme Richard Defrus dans Rencontre du troisième type. C'est-à-dire, bon, c'est pas des histoires d'extraterrestres, mais c'était une déconstruction passionnelle de la réalité. Se retrouver nu, en fait, à ce moment-là, comme ça, et devoir un petit peu recomposer. Et dans un deuxième temps, c'est de voir, au fond, ce que moi j'ai cherché, en fait, ce qui est venu vers moi, c'est une médecine. C'est pour ça que les indigènes l'appellent la médecine, c'est pour ça qu'on appelle plutôt le mot chamanisme qui vient de loin, mais pour les guérisseurs, sont des curanderos, c'est des guérisseurs, c'est des médecins traditionnels. C'est une médecine traditionnelle, au fond. Parce que tout ça, le système de croyance dans lequel évolue le peuple Shipibo, par exemple, et les indigènes, au fond, voilà, ils sont appris dans les contes, et une fois que on va voir le guérisseur, pas pour
c'est
voir,
pas la même
on va,
chose.
On va juste voir le guérisseur pour aller
confusion.
Mieux.
Il y a une confusion, parce que d'un côté, vous me dites, c'est une porte qui s'ouvre dans mon cerveau, je vais vers un autre monde, et de l'autre, je peux aller voir le chaman parce que j'ai une grippe. Donc c'est quand même tout à fait différent. C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi faites-vous une expérience chamanique? Parce que vous êtes malade, ou parce que vous avez envie d'aller à la rencontre de quelque chose?
Alors non, ce que je... D'accord. Je vais voir autrement. Au début, c'est cette curiosité métaphysique, c'est cette peur dont on parle, c'est tout cet élan d'avoir quelque part, en somme, culturellement, au fond de nous, cette chose qui nous fait vibrer quand on voit tous ces films merveilleux. On n'y croit pas, mais en même temps, on vibre dedans. Et voilà. Et en fait, quand on va les revoir, on se dit, bah tiens, finalement, le Mordor, je l'ai rencontré, j'y suis allé aussi, chez les elfes aussi. Et tout ça ne sont que des manifestations de mon invisible existant. Mais une fois que ce chemin... C'est ça que je dis, ça c'est la moulinette des croyances, en fait, et vous vous recomposez dedans. Mais après, vous regardez ce que c'est vraiment et pourquoi vous y retournez. Alors aujourd'hui, moi, 20 ans, pourquoi je continue d'y retourner régulièrement? Parce que j'y retourne quand j'ai un problème à régler, quand je vais mal, quand j'ai une diète d'une plante particulière à faire parce que j'aurais envie de découvrir sa médecine. Donc, c'est autre chose.
Vous y allez quand vous allez mal, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, si je prends une aspirine, ça me soulage le mal de tête, mais faire cette expérience-là, ça soulage quoi et à quel niveau?
Bah, je me suis par exemple trop fait emporter par mes pensées, par notre société, par des soucis, par un moment, j'ai oublié qui j'étais. Je crois que notre société fabrique des gens qui oublient en se retrouvant emportés. Alors, on le sait dans le cinéma, à faire un film. Et puis, tout ça est important, bien sûr. Mais à un moment donné, il y a autre chose. Il y a de respirer, de pouvoir regarder, de pouvoir se rappeler qui on est, d'où on vient, avec qui on est relié, c'est-à-dire la nature. Voilà, et c'est simplement...
Ce sont des psychothérapies, en fin de compte?
C'est aussi se remettre dans son corps, c'est aussi nettoyer ses pensées, nettoyer tout ce que la ville, le stress, le monde moderne, les images qu'on voit au cinéma aussi. Tout ça, c'est des empreintes partout. Quoi,
Corinne Sambrin, quand vous avez fait l'expérience de ce qui s'est avéré être un don, même si le terme n'est pas véritablement approprié, à quel moment vous avez perçu que vous pourriez vous en servir pour autre chose, pour la thérapeutie, pour la science ?
Tout de suite, parce que juste le fait d'être en transe vous donne plus de force, vous sentez pas la douleur, vous avez accès à des informations auxquelles on n'a pas accès, c'est-à-dire on peut parler avec les arbres, on a une communication qui est élargie. Voilà, donc pensons que le cerveau est un filtre, et dans cet état-là, ce filtre, filtre différemment la réalité. Donc c'est toujours la même réalité, mais simplement on la voit d'un angle différent. Voilà, donc dès le départ, je voyais cette force qui était augmentée, je ressentais pas la douleur, pratiquement pas. Donc je me suis dit, c'est un état qui est quand même super intéressant. Voilà, donc j'ai voulu une fois la surprise passée de la première transe, j'ai voulu l'explorer et l'emmener dans les neurosciences pour voir à quel point, parce que j'ai toujours été persuadée que c'était un potentiel en chacun de nous et qu'il était juste en sommeil chez la plupart, et à quel point c'était un potentiel intéressant, non seulement pour ouvrir la connexion à son environnement, c'est-à-dire que dans notre état de conscience ordinaire, c'est plutôt l'hémisphère gauche qui est prédominant, c'est-à-dire la perception de l'ego. On a démontré avec les recherches qu'on a faites en neurosciences que pendant l'état de transe, c'est plutôt l'hémisphère droit qui est prédominant, donc l'hémisphère des perceptions, des intuitions et de tout ça.
Charles Stepanov, vous êtes, je crois que vous êtes d'accord sur le fait que chacun pourrait avoir cette...
Oui, dit, nous sommes tous des chamans en puissance, vous dites.
Cette puissance-là. Hein,
oui, l'idée, c'est que, en fait, les activités chamaniques, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la transe, c'est particulier à certaines régions, et c'est surtout le point de vue occidental là-dessus. Parce que les Occidentaux, quand ils sont arrivés en Sibérie, en Amazonie, ils comprenaient rien. Ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils disent, c'est des gens qui délirent, c'est des gens qui sont en extase, en transe. Et puis à mesure que la recherche a avancé, on a compris les langues. On s'est rendu compte que c'est pas du baratin, c'est des chants rimés d'une richesse extraordinaire, avec des métaphores, avec une tradition de syntaxe modifiée, des jeux d'une subtilité très difficile à comprendre pour les linguistes actuellement. On comprend ça de mieux en mieux, et réduire ça à de la transe, c'est juste pas possible. Parce que il faut un énorme entraînement, il faut une très grande maîtrise, et cet aspect-là, il est fondamental. Le simple fait de délirer, moi sur mon terrain, je veux dire, c'est un malade, c'est pas un chaman. Alors, il y a des moments où on a des visions qui sont cultivées de façon très ordinaire, c'est ça que je souligne dans mon livre, par le voyage mental, la rêverie, le rêve. C'est ça qui est universel dans toutes les traditions chamaniques mondiales. Le rêve, tout simplement, pas besoin d'entrer en transe. Chacun de nous produit des voyages mentaux extraordinaires au quotidien, le jour et la nuit. Et ça peut être stimulé sans aucun psychotrope par... La technique la plus simple, universelle, c'est ce qu'on appelle la déprivation sensorielle. Le fait de se mettre dans le noir, dans le silence. L'initiation, elle se fait pas sur un mode pédagogique, comme on voit dans les stages néo-chamaniques en Occident. Vous avez un maître, il faut payer son chèque, et il va vous faire votre formation. Non, ça c'est la façon de l'Occident, qui a besoin de la scolarité, du maître à penser, réinterprète le chamanisme. Ça se passe tout à fait autrement, que ça soit en Amérique ou en Sibérie. D'abord, il faut être seul face au monde, seul face aux animaux, en allant s'isoler dans la forêt, jeûner pendant des jours et des nuits. Et là, il s'agit pas du tout de se retrouver soi-même, comme disaient les Occidentaux, parce que nous, la valeur suprême, c'est l'individu. Il s'agit au contraire de sortir de soi-même pour aller se projeter dans les mondes, dans les perspectives des animaux, des plantes, des rivières, pour renouer tous ces liens avec le monde. Stable, nor your stable.
Pas mal la saturation. Note signée Big Thief. Ouais, un petit peu psychédélique.
Un peu psyché, ça tombe bien. Hein,
du son qui nous arrive de Brooklyn dans le NRV, ça tombe bien pour ce soir.
Parfait.
Rendez-vous.
Quand t'es en transe, t'as accès à des informations que tu peux pas percevoir dans ton état normal. C'est comme si ta perception de l'environnement, des autres, même de ton propre corps était plus grand. Comme si le monde était plus grand. Je sais pas, imaginez par exemple les étages de la Tour Eiffel. Bah, t'as pas la même vue au troisième étage que quand t'es au premier étage. Pourtant, tout ce que tu vois est réel. Mais tu le vois différemment parce que t'as juste changé de point de vue.
France Inter.
En tout cas, moi, j'aimerais bien te voir te transformer en loup.
Bon, loup ou pas, moi, je dis que si la transe me donne accès à d'autres capacités, c'est un trésor que j'ai entre les mains, non ?
Laurent Goumard.
Elle explique bien les choses dans le film. Cécile de France qui joue votre rôle. Corinne Sombrin, le film, c'est vous qui le signez. Fabienne Berthaud, il sort en salle mercredi prochain. Un monde plus grand. La première question pour cette troisième partie, elle est pour le biographe de Carlos Castaneda. Ah. Elle est pour vous, Christophe Bourseiller. Vous avez été initié ?
Ah bah, disons que oui, dans la mesure où je m'intéresse depuis très longtemps à Carlos Castaneda. Après, bon, c'est très personnel, bien sûr, que je répondrai comme des invités, mais il est certain que j'étais passionné par ce phénomène du chamanisme et que j'ai voulu, alors moi, vérifier, parce que moi, j'écoutais comme ça qu'il va vérifier, aller chez les gens, voir comment ça se passe, comprendre, donc essayer, mais aussi discuter. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allé chez Carlos Castaneda, j'ai rencontré ses femmes, qui sont très sympathiques et très nombreuses. et j'ai discuté, j'ai pu comprendre qu'il en allait... Tout est là, si vous voulez. Quand vous prenez des substances illicites, comme dirait Jan Koenen, que j'ai pris personnellement à Amsterdam, est-ce que vous avez des hallucinations? Ou est-ce que vous entrez en contact avec quelque chose qui est réel? Et c'est un pari, c'est comme le pari de Pascal. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être réel. J'ai fait ce pari. Je me suis dit, au fond, peut-être que ce que je vois ou ce que je ressens, ça relève de mon cerveau qui disjoncte, ou pas. Ou peut-être que je vois effectivement des choses qui apparaissent devant moi, des gens. Voilà, c'est ça, tout est là et l'enjeu est là.
Corinne Sombrin, une question par rapport à ce que vous... À la façon dont vous travaillez le chamanisme aujourd'hui, je sais que vous luttez pour faire reconnaître sur le plan de la science le chamanisme. Vous cherchez à développer un programme de recherche en neurosciences. Avec qui ? Dans quel cadre ? Est-ce qu'il y a des résistances ?
Alors déjà, je vais faire une petite mise au point entre chamanisme et transe. Le chamanisme appartient à une culture qui n'est pas la mienne, qui m'a adoptée, dont j'ai appris beaucoup de choses. Mais la transe est quelque chose qui est un potentiel de l'humain, qui était là avant le chamanisme. D'accord ? Donc nous, on travaille sur la transe.
Sur la transe, d'accord. Voilà. Dans le cadre de la science.
Oui, donc quand on dit tout le monde est chaman, non. Parce que pour ça, il faut faire une formation qui est longue. C'est comme si on disait, je fais une prière, donc je suis curé. D'accord.
Donc j'ai bien compris. Voilà. C'est parfait. Vous êtes aussi pédagogue voilà. que dans le film. C'est vraiment parfait.
Il y a des traditions chamaniques dans le monde entier.
Oui, oui, absolument.
J'ai appris par exemple qu'il existe en Corse le mazérisme,
oui,
qui est une tradition chamanique.
Oui,
donc, vous voyez, c'est pas uniquement.
Non, enfin, on les appelle traditions chamaniques parce que c'est une extrapolation du mot chaman qui vient de Sibérie et qui est vraiment adapté au chamanisme de Sibérie et de voilà, ça vient d'une population qui s'appelle les Tungus et Charles pourra le confirmer. Donc aujourd'hui on dit chamanisme pour tout, mais en fait, c'est ce que disait Yann tout à l'heure, c'est-à-dire en Amazonie, c'est les curanderos, voilà, donc chacun, même en Mongolie, on les appelle Udgan pour les femmes et Beu pour les hommes, on n'utilise pas le mot chaman.
Ils soignent des bobos physiques ou uniquement des bobos spirituels ou psychiques ?
Les deux, mais plutôt en Mongolie, plutôt psychique, plutôt ça. C'est-à-dire que la cérémonie chamanique est une réparation, ça s'appelle pas une guérison. Et donc le chaman est là pour réharmoniser un lien qui a été rompu entre le monde des humains, le monde des esprits, par manque de respect pour quelque chose.
Alors sur le plan des neurosciences, ça sert à quoi la transe ? Et alors, qu'est-ce que vous cherchez à développer ?
Déjà, moi, je pensais que cet état était très intéressant, qu'il fallait le faire connaître mieux en Occident. Et donc, pour le faire connaître mieux, il fallait passer par la science. Donc, évidemment, on voit dans le film la réaction, c'était en 2001, la réaction qu'a provoqué mon expérience auprès des scientifiques. J'ai quand même reçu la carte du psychiatre. Et puis, on voit dans le film, c'est très drôle, hein, finalement. Voilà, toutes ces...
Vous passez de l'électroencéphalographe, c'est ça ?
L'électroencéphalogramme, oui, oui, oui. Mais pour arriver à vous faire mettre des électrodes sur la tête dans un laboratoire de recherche, il faut passer quelques petites épreuves. Voilà, déjà montrer que faire des démonstrations, montrer que c'est sérieux ce qu'on vit et qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis après, et on peut pas faire entrer un tambour dans un laboratoire de recherche.
Exactement. Donc vous pouvez pas rentrer en transe avec un tambour et j'imagine ni avec un produit.
Exactement, encore moins.
Donc quelle technique vous utilisez alors?
J'ai dû me débrouiller, j'ai dû apprendre à induire la transe par la seule volonté. Voilà, donc au début je me suis dit, j'ai pas le droit à un casque parce qu'il y a déjà le casque que j'ai avec les électrodes, donc c'est pas compatible. Et donc j'ai essayé d'imaginer les sons du tambour dans ma tête, et ça n'a pas marché du tout. Et finalement j'ai reproduit les tremblements que provoquait le son du tambour sur mon corps. Voilà. Et chacun a une signature physique finalement qui peut être l'induction qu'on va utiliser pour provoquer la transe. Donc moi, pour moi, ça a été les tremblements et puis le nez qui fait comme ça, là, qui remonte.
Comme un sorcier bien aimé.
C'est ça, exactement. Mais moi, je sais pas le faire bouger dans le de droite à gauche.
Ça viendra.
Oui, mais j'y arrive pas encore. Voilà. Donc une fois que j'ai été capable d'induire la transe par la seule volonté, là, j'étais devenue souris de laboratoire, voilà. Et donc j'ai pu faire des expériences pour savoir ce qui se passait dans le cerveau pendant la transe. Donc la première étape, ça a été de montrer que c'était un potentiel du cerveau déjà. Et la deuxième étape, ce sera les applications thérapeutiques. Mais donc là, on a commencé en 2007 à Edmonton, dans un hôpital psychiatrique. C'était le professeur Florent Henry qui a fait les premiers tests. Ça a été publié en 2017. Il a fallu 10 ans quand même pour publier ça dans une revue scientifique. Et maintenant, on travaille au CHU de Liège avec Stephen Lorraise, qu'on voit dans le film, d'ailleurs, qui joue son propre rôle et qui a tenu absolument à jouer ce rôle parce qu'il voulait nous aider à porter sa conscience scientifique dans ce projet. Et donc avec lui, on a fait deux autres protocoles et surtout, notre contribution, ça a été de démontrer que non seulement la transe était un potentiel du cerveau, mais qu'il était possible de l'induire par la seule volonté, comme je l'avais fait. Maintenant, on est capable en 2 jours d'apprendre on a fait un programme de recherche sur 600 volontaires à qui on a appris non seulement à accéder à la transe, mais à l'induire par la seule volonté. Ce qui fait que maintenant, ça fait des cohortes de transeurs et que les recherches en neurosciences vont pouvoir se faire sur beaucoup, beaucoup de sujets.
C'est une religion, le chamanisme, en fin de compte?
Alors, c'est une pré-religion, c'était là avant les religions, c'était les premières formes de spiritualité. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt
une tradition animiste. Vous voulez dire que la foi, finalement, c'est quelque chose qui s'inspire de la transe chamanique?
On vit des expériences d'extase et des expériences mystiques très très fortes pendant les états de transe. Voilà, moi j'ai vécu des choses magnifiques, vu des divinités. Si j'étais pratiquante d'une religion, je me dirais que j'ai vu les dieux de cette religion. Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que quand on le vit, on a du mal à s'en remettre tellement c'est beau et fort et grand.
Charles Stepanov, vous êtes initié vous aussi?
Alors la notion d'initiation, je me suis rendu compte qu'elle fonctionne pas sur mon terrain en Sibérie. C'est une vision à nouveau complètement occidentale,
bien sûr.
Dans laquelle il y a une transmission de savoir particulier. Parce que nous, on valorise le savoir, c'est lié à l'écriture chez nous. Alors, la tradition chamanique, elle est orale et elle est beaucoup basée sur des expériences individuelles. Qui est une formule chez les Indiens d'Amérique du Nord que j'aime bien parce qu'elle résume pas mal de choses. Elle dit n'expliquez pas tout au jeune, parce que vous allez lui voler la possibilité d'apprendre par lui-même. Et ça, c'est très important. Ça va passer par le fait de nouer des liens soi-même par diverses expériences. Et donc, initiation, ça convient pas tellement. La notion de maître, d'initiation, sur mon terrain, elle convient pour le bouddhisme, par exemple. Et c'est le bouddhisme, pour répondre à votre question, qui joue le rôle de religion. Donc les gens, les Tuva, si on leur demande quelle est votre religion, ils vont dire qu'ils sont bouddhistes. Parce que tout simplement, la notion de religion, elle est amenée par ces grandes religions institutionnalisées. En Tuva, c'est Shashun.
Et ce que disait Laurent, il voulait dire, est-ce que vous avez pris des substances? Je connais Laurent, et c'est un peu ça qu'il,
que vous avez
c'est
joué
un
du tambour,
ça qu'il voulait savoir. Pour
alors, en Sibérie centrale, disons, dans l'ensemble du monde nord-asiatique, on est dans des traditions hiérarchiques où l'accès à la fonction de chaman, il se fait par héritage. C'est pour ça qu'une des premières réactions de la chamane Nkretuya quand Corinne arrive, c'est de dire, t'as des ancêtres chamanes, forcément. Et là, c'est tout à fait différent de notre vision à nous, démocratique, où on se dit, chacun va pouvoir apprendre et devenir, faire des expériences parce qu'on a tous le même cerveau. Non, pour les Tuva, on a des squelettes différents. Et il y a des gens qui ont un squelette de chaman et d'autres non. Moi, une chamane m'a dit plusieurs fois, toi, t'as de la chance, t'as aucun talent chamanique. Rien, tu vois rien du tout. Et du coup, je peux tout te dire. Parce que il n'y a pas de danger, je vais tout te raconter. C'est ça le boulot de l'ethnologue, d'essayer plutôt que de faire une expérience sur lui-même, de se découvrir lui-même, essayer de s'oublier soi-même et essayer de comprendre des gens complètement différents de nous.
Oui, tandis que moi, elle me disait toujours, les esprits t'enseigneront. Voilà, à chaque fois que je posais une question, Charles, quand il pose une question, on lui donne des réponses. Ben moi, on me disait, les esprits t'enseigneront.
Ah, vous n'avez vraiment pas de peau.
Ah non, c'est pas de chance.
Et vous, Yann Kounen ?
Non, mais c'est intéressant. C'est un peu cette chose-là. Quand on rentre au bout de plusieurs années, qu'on avance à prendre les plantes et faire des diètes, il y a des moments, il y a des questions qu'on pose. Il n'y a pas de réponse. Tu verras, tu auras la réponse ce soir, mais dans la cérémonie. Et petit à petit, tu comprends que si tu n'avais pas fait toi le chemin de te tromper d'interprétation plusieurs fois, tu ne comprendrais pas la réponse. C'est-à-dire cette notion de... Mais c'est une vraie jolie, une belle notion d'apprentissage, c'est-à-dire de laisser la personne un moment aussi dans son jus et de ne pas fabriquer des choses mentales, c'est-à-dire des idées reçues. Il faut vivre une expérience et de ça, petit à petit, en tirer le sel et...
Ben merci à vous quatre, vous restez avec nous, on veut vivre une autre expérience en live, peut-être avec une certaine transe, en tout cas, c'est le moment du live avec Marion Guilbeault.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion.
Laurent, c'est pas vraiment un chaman, hein, c'est plutôt un dandy. Simon Capocasso.
C'est pas incompatible.
Ah oui, on peut faire les deux, t'as raison Christophe. Alias Le Noiseur, il s'inscrit dans une lignée de chanteurs dandy initiés par des gens comme Gainsbourg, Dutronc, Daniel Darc, Biolay. Il écrit seul, dans sa chambre du 20e arrondissement parisien, une musique de chambre contemporaine, c'est-à-dire des chansons intimistes, dans le sens où l'intimité physique et sentimentale est au centre de ses préoccupations. Mais c'est également des chansons sophistiquées, parce que Le Noiseur ne les laisse pas sortir toutes nues comme ça, sans arrangement, même si lui, parfois sur scène, se pointe en robe de chambre, en soie, bien sûr. Les chansons du Noiseur ont longtemps porté la marque de l'oreiller, parce qu'à ses débuts, il y a 5 ans, il n'était question que d'amour. Dans son ADN, on trouve Les Grands Espaces de Morricone, Les Intérieurs Feutrés de Truffaut, des livres de Françoise Sagan, un tableau de Gustave Courbet, L'Origine du Monde. Ces nouvelles chansons, cette fois-ci, s'ouvrent vers l'extérieur, avec le constat que trouver sa place en ce monde reste toujours une épreuve. Alors il y a parfois un côté un peu droupi chez ce dandy aussi lettré que loser. Il est sensible aux punchlines, à l'ego trip et du rap, avec ce phrasé chanté qui est sa signature vocale. Alors il vient ce soir en avant-première dans le NRV révéler un des titres de son nouvel EP qui va sortir au mois de janvier. Bonsoir Le Noiseur. Ce titre c'est Summer Slow 88 et c'est une ode à cette danse lente et languide. Et moi je me demandais si vous gardiez un souvenir particulier d'un de vos slows les plus torrides.
Alors moi j'ai des souvenirs de slow des débuts des années 80, quand j'étais enfant, de fêtes de village. Donc, c'était pas très torride à l'époque, mais cette chanson elle vient de là, elle vient de cette époque, c'est pour ça que je l'ai appelée 88, Summer Slow 88. C'était des slows populaires qu'il y avait à l'époque et quand je les entends aujourd'hui ça me replonge en enfance.
Caress Whisper ou des choses comme ça?
Non, des slows, plutôt des slows français.
Ah, des slows français, sur quelle chanson? Des
choses, par exemple... David et Jonathan, Elsa, Glenn Medeiros,
roman d'amitié,
voilà, exactement, voilà. Roman d'amitié, j'aime beaucoup,
j'adore.
Voilà,
quasiment des expériences chamaniques, moi j'ai envie de dire. Voilà. Bon ben c'est à vous Le Noiseur, ouais. On vous écoute.
Et ta bouche infinie, une voix off dans la nuit. T'es belle en super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. À deux ou en trio, ça tourne dans nos têtes. On danse pas en solo, y'a comme un air de fête. Summer slow 88, écoute ce hit. Summer slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer slow 88, tout va trop vite. Summer slow, ton cœur palpite. Si tu me le demandais, je ferais tout pour toi. J'irais à NY pour te ramener un grec. J'aurais plus jamais peur, non jamais d'être heureux. Et je te laisserais même me couper les cheveux. Je mangerai le chocolat, je te laisserai la fraise. Je dirai que ça va même quand je suis mal à l'aise. Je tuerai pour te plaire et j'irai en prison. Mais je m'évaderai ici comme un petit papillon. Summer Slow 88, des courtes hits. Summer Slow en mode repeat, danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88, tout va trop vite. Summer Slow, son cœur palpite. 3 minutes et 30 secondes, c'est le temps qui m'est donné. 3 couplets, 3 refrains, c'est tout ce dont j'ai besoin. 81 BPM pour te dire combien je t'aime. Et l'on tourne sur nous-mêmes. Plus ça tourne, plus je t'aime. Fulgurance des sentiments sur thème polant.
Merci.
Le Noiseur, Summer Slow 88, c'est extrait de son prochain EP Musique de Chambre, ça sortira le 24 janvier 2020. Il était parfaitement accompagné par Colin Radio Elvis Russell à la batterie. Il sera en concert au Palace à Paris le 3 décembre, à la Maroquinerie à Paris le 4 février 2020. La prise de son ce soir était assurée par les chamaniques Florent Layani et Nicolas Delmas. Merci à vous messieurs.
Et merci à nos invités, merci Fabienne Berthaud. Je rappelle que le film Un Monde Plus Grand sortira en salle mercredi prochain. Corinne Sombrin, mon initiation chez les chamans est disponible chez Pocket. Charles Stepanov, Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination, c'est aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond.
La découverte, c'est une branche de la découverte.
Ah d'accord, ok. Et puis on vous retrouve aussi dans le dernier numéro de Philosophie Magazine, avec c'est pour un dialogue avec la comédienne Cécile de France qui joue dans votre film, Fabienne Berthaud. Yann Kounen, le film Ayahuasca Comics... Cosmic Journée en réalité, c'est en réalité virtuelle, c'est ça hein.
Oui, c'est un film que j'ai fait pour continuer à voilà à être dans le film. Et je voulais juste dire que j'étais très content que Fabienne, j'ai fait un film sur cette histoire et j'espère que ça va vraiment résonner parce que c'est important qu'on fasse du cinéma qui est un art sensoriel sur les états modifiés de conscience et les expériences sensorielles.
Merci à vous. Et enfin, Vincent Ravalec, Le Retour d'Aura, c'est la suite de la saga Sainte-Croix-les-Vaches. C'est publié aux éditions Fayard. Merci à tous. Le NRV, vous l'avez compris, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV de la suite, c'est-à-dire pour plus de France Inter. Mais demain, au programme...
Il n'existe pas de liste communautaire. Le fait d'avoir une religion ne vous empêche pas de faire de la politique, y compris à des élections municipales.
On en parlera demain avec Christophe Bourseillier.
Beaucoup moins chamanique.
Ouais. Demain, prochaine municipale, place aux listes communautaires. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez bien sûr laisser des messages, des analyses, des questions sur notre répondeur 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. La musique demain, Marion Guilbeault.
On a rendez-vous avec un chanteur aussi cinéphile qu'engagé, c'est Alex Baupin.
Le NRV, c'est Marion Lelay, de retour à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rosic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.